Même audio. Vous ne l'avez pas vu? Vous pouvez l'entendre.
Le temps passe très très vite, vous êtes tous passionnants. Je vais essayer de nous amener vers la fin et puis vers l'échange avec le public de manière assez rapide, donc si on peut avec des réponses courtes, ce qui n'est pas très facile puisque je me tourne vers Bérengère et ensuite vers Romain. Les lois de la République prohibent aujourd'hui explicitement le harcèlement, mais en fait c'est un cadre législatif qui est plutôt récent. Un petit temps de concertation.
Pardon, j'ai pas compris la question.
C'est le passage de 2018 à 2022.
Voilà.
Ah, vous voulez que je sorte la loi comme ça?
Non, justement, l'enjeu, c'est
juriste, de faire attention.
Donc la question, alors, c'est, il y a un cadre réglementaire qui est très récent.
Il y a un cadre, alors effectivement. D'accord. Donc depuis 2022, et la loi a évolué, et ça montre aussi une évolution de la société. Donc c'est très important d'avoir en tête que les choses évoluent. Donc ce qu'il faut avoir en tête, c'est que, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, ça a été clarifié d'un point de vue du fait que ça peut concerner deux élèves d'un établissement, que ce soit dans un établissement ou à l'extérieur de l'établissement. Et donc ça va concerner tous les espaces de vie des jeunes. Et donc, et après, sur les cyber, il y a un cadre spécifique encore. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il a été précisé que n'importe quel professionnel qui exerce dans l'établissement peut être aussi condamné pour harcèlement scolaire à partir du moment où il participe à des violences en milieu scolaire. Donc ça, c'est les deux éléments qui me semblent être importants de pouvoir clarifier. Et puis après, il y a une augmentation des sanctions. Donc aujourd'hui, c'est sanctionné plus sévèrement. Il faut quand même se rappeler que ce sont des enfants. Et qu'il y a tout un cadre spécifique sur les sanctions pénales qui concernent les jeunes, et notamment avec une visée éducative réparatrice de manière tout à fait prioritaire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en Haute-Garonne, il y a même un protocole qui est unique en France, c'est de pouvoir avoir comme condamnation un stage qui permet aux jeunes de pouvoir comprendre, prendre conscience du phénomène de harcèlement et être lui-même acteur de prévention dans l'avenir. Un jeune qui a été auteur ou co-auteur de harcèlement scolaire. Donc il y a vraiment des choses qui se font. Et donc la Maison des droits des enfants et des jeunes, et d'ailleurs Maëva, ici présente, anime ces groupes avec des partenaires.
Au complément ?
Oui, or juste un point de détail, mais qui a son importance au niveau légal, c'est justement sur le cyberharcèlement. Depuis le départ, on part du harcèlement avec un phénomène de réitération. Et dans deux cas, et le cyberharcèlement en fait partie, une action unique de l'auteur suffit pour qualifier de harcèlement. Pourquoi ? Parce que le législateur a compris que juste une publication, comme à l'instant de la publication a été partagée à des centaines, des milliers, voire plus de personnes instantanément, la multiplicité était prise en compte à ce niveau-là. Donc des fois, on a des auteurs qui se sentent pas en tant que qu'auteurs d'une infraction parce qu'ils ont fait un like et ils ont même des fois ils ont contredit la personne qui mettait en cause une victime, mais juste en publiant et en commentant, ils ont partagé la dite publication à tous leurs contacts. Donc la réitération de l'infraction sur le cyber peut être à l'initiative que d'une seule action unique.
Alors une ou deux questions pour terminer avant de passer aux échanges avec le public. Il y en a une que je peux ne pas poser. Est-ce que vous pourriez essayer de vos places et fonctions respectives détailler qu'est-ce qui se met en place quand il y a une situation qui est signalée, que ce soit un dépôt de plainte ou un signalement au délégué du défenseur des droits ou le MDEJ, qu'est-ce qu'on peut arriver à avoir un schéma à peu près de qu'est-ce qui se met en route, puisqu'on a démarré quand même avec l'interaction des structures.
Oui, c'est très important de pouvoir garder espoir parce qu'il existe aujourd'hui beaucoup de moyens d'action quand on est confronté à cette thématique. D'abord, il y a le 3018 qui est à la fois un numéro vert, une appli et un site internet qui est une ressource extraordinaire et que je vous invite à télécharger pour la découvrir et qui permet, notamment pour les cyberviolences, mais en fait pour toutes les formes de harcèlement, de pouvoir agir très concrètement puisque ils ont des capacités à faire effacer les contenu haineux et intervenir et notamment soutenir aussi dans les démarches juridiques. Il y a évidemment un dépôt de plainte qui peut mener à des poursuites. Il peut y avoir des procédures disciplinaires dans l'établissement. Il y a le protocole phare donc de l'éducation nationale, qui est un protocole à la fois très ambitieux et très adapté pour les situations de groupe dans le milieu spécifique des collèges. Et donc, on pourra répondre à vos questions par rapport à ça si vous souhaitez approfondir.
Alors, des dispositifs mis en place, oui, c'est vrai que nous, la branche judiciaire, le dépôt de plainte, en parlant déjà et en alertant les adultes qui entourent le jeune, c'est moyen de faire passer l'information et de pouvoir agir. En France, tout ce qui est judiciaire est une procédure écrite, donc bien obligé de passer par le dépôt de plainte pour en informer la sphère judiciaire, les magistrats qui peuvent après mettre plein de dispositifs en place pour essayer de résoudre la problématique avec en prenant en compte toutes les singularités de chaque cas.
Parce que s'il y a un point qu'il faut retenir, c'est que quand même, vous l'avez dit tout à l'heure, je me permets d'appuyer dessus, faire de la prévention, c'est déjà agir. Vraiment, prévenir, c'est agir. C'est-à-dire qu'on sait que quand on fait de la prévention, on a moins de situations de harcèlement, et quand on est confronté à des situations de harcèlement, les mesures qu'on va mettre en place seront plus efficaces. Donc c'est vraiment très très important de mettre l'accent sur le volet prévention, notamment sur le harcèlement scolaire.
Romain, vous avez...
Juste vous préciser ce que nous faisons lorsque nous sommes saisis au défenseur des droits. Je vous ai indiqué dans mon introduction que n'importe quelle personne qui estime que ses droits ne sont pas respectés, notamment un enfant en cas de harcèlement, peut saisir l'institution. Nous, dans un premier temps, on va chercher à résoudre la situation par la voie de la médiation, donc la voie amiable, en se rapprochant des différentes parties, donc famille, éducation nationale, que ce soit au niveau de l'enseignant, du chef d'établissement, de la DSDEN ou encore du rectorat, pour voir en fait qu'est-ce qui a été mis en place. Parce que on vous a parlé de cette nouvelle loi qui indique que aucun enfant ne doit subir du harcèlement. Donc ça, c'est un principe qui a désormais été inscrit dans le code de l'éducation. Le corollaire de ce principe, c'est que l'éducation nationale, les équipes doivent mettre en œuvre tout un tas d'actions pour prévenir et réagir face à ces situations de harcèlement. Et donc nous, notre rôle, c'est d'aller vérifier, notamment par un travail aussi d'enquête, si ces protocoles ont été correctement mis en œuvre par l'éducation nationale. Et pour ça, je l'indiquais, on dispose de pouvoirs d'enquête, puisqu'on peut demander la communication de pièces, d'informations. On peut également convoquer les personnes pour des auditions. On peut se rendre sur place dans des écoles pour enquêter, comme pourrait le faire en fait la police ou la gendarmerie. Tout ça, ça donne lieu à la rédaction de procès-verbaux qui peuvent ensuite être présentés dans le cadre d'une éventuelle procédure judiciaire. Donc il y a un réel travail d'accompagnement des enfants et aussi de leur famille.
Même audio, une mémoire sonore.
En fait, je ne vais pas poser la dernière question. Alors d'abord parce que j'en ai suffisamment pour faire au moins une heure de plus. Et avec nos invités, ça va pas être très, très difficile. Je vais vous laisser le soin de la poser. On va faire ça de manière très simple. Si vous avez une question à poser, vous me faites signe. Je viens vous voir avec le micro. Alors, dans, à condition que je vous vois. Donc, madame, c'est ça? J'arrive.
Bonsoir. Donc, comme l'indiquait tout à l'heure Monsieur Vincini, effectivement, les questionnaires harcèlement commencent et circulent dans les établissements. Juste une interrogation aux professionnels présents. On parle souvent de harcèlement entre pairs. Dans un exemple, par exemple, d'une classe de première générale où on leur a présenté le questionnaire et la professeure principale en a profité pour prendre une heure et demie de temps et discuter avec les enfants, échanger avec eux. Les sujets qui revenaient, c'était la pression qu'ils ressentaient, qu'ils ressentaient de la part des professeurs sur les performances, la compétition entre eux à laquelle ils étaient soumis et d'autres éléments. Et ils concluaient en disant que cela aussi pouvait être source de situations de harcèlement entre pairs, initiées de ce fait par les adultes. Est-ce que, en tant que professionnel, c'est des situations que vous rencontrez? Et est-ce que les enfants, parce qu'il y a aussi le passage à la verbalisation des choses, en parlent? Merci.
C'est une question hyper importante. On sait dans les sciences de l'éducation depuis très longtemps que quand le climat scolaire est dégradé, ça augmente le niveau de violence entre enfants. Donc bien sûr, tout ce qui va être lié à des difficultés, que ce soit de l'équipe éducative, institutionnelle, de la pression, du stress, un climat de toute façon qui est dégradé, quelle que en soit la cause, ça a des effets et c'est évident.
Merci. Donc le temps, Morgane Cellier, Mission Chemin de la République, amène le micro.
Bonsoir. Donc, tout d'abord, merci de l'initiative et merci à l'ensemble des intervenants pour les contributions que vous avez apportées. Je parle de la place d'un responsable d'une fédération d'éducation populaire donc qui intervient en direction de nombreux enfants et jeunes. Et je voulais juste faire une remarque. Souvent, dans les médias, partout, quand on parle de harcèlement, on parle d'élèves et on parle de harcèlement scolaire. Or, on sait qu'avec l'avènement du numérique, mais vous l'avez d'ailleurs évoqué dans vos propos, hein, les problèmes, les phénomènes de harcèlement ne se limitent pas dans le temps et dans l'espace, hein, pas dans le temps scolaire et pas dans l'enceinte scolaire uniquement, ça se poursuit le soir, le week-end. Est-ce que, à un moment donné, je pense que c'est pour des questions de sémantique, on peut parler du harcèlement de manière beaucoup plus large, parce que ça permet de bien mesurer la problématique qui dépasse, encore une fois, un moment de la vie de l'enfant, et la traiter tous ensemble dans sa globalité.
Alors peut-être certains éléments, les définitions telles qu'on peut être amené à les utiliser au niveau des recherches, et y compris des études en recherche appliquée, sont parties au démarrage de la notion de harcèlement. Harcèlement scolaire, c'est effectivement venu après pour qualifier ce qui pouvait se passer dans l'enceinte des établissements. Mais je crois que maintenant, derrière harcèlement scolaire, il y a vraiment cette compréhension du fait que ça ne se limite pas à cette enceinte scolaire. Alors peut-être que c'est un point sur lequel le numérique a aidé, mais Bérangère va compléter.
Le harcèlement, c'est interdit quelle que soit sa forme, il faut le rappeler, bien sûr. Le fait qu'il y ait une spécificité sur le harcèlement scolaire, c'est intéressant parce que ça montre que l'école doit être un espace de sérénité pour les apprentissages et que c'est particulièrement grave que le harcèlement ait lieu dans ce contexte-là. Après, et pour savoir tout le travail formidable que vous faites sur les temps de loisirs, en périscolaire, c'est évidemment important de comprendre que, de toute façon, si ça concerne deux élèves d'un même établissement et que c'est sur un temps de loisir, on va le qualifier aussi de harcèlement scolaire, et que toute la prévention et toutes les actions qui sont faites avec des projets éducatifs qui permettent de travailler sur la citoyenneté, l'égalité filles-garçons, enfin tout ce que vous faites au quotidien, en fait, hein, l'éducation aux médias, ça, ce sont vraiment des leviers hyper importants pour pouvoir travailler toutes les formes de violence entre enfants et dont le harcèlement scolaire.
Et peut-être dans la continuité, il y a aussi on évoquait l'évolution des mots, mais pendant très longtemps, on n'a pas parlé de harcèlement, on a parlé de violence scolaire. La notion de harcèlement est arrivée ultérieurement. Et on a aussi quelque chose de nouveau, et ça rejoint certains aspects positifs qui viennent d'être évoqués, c'est-à-dire de parler de climat scolaire permet aussi d'en évoquer les éléments qui servent, comme Bérangère vient de dire, de levier, pour marquer aussi ce qui peut être positif. Les réseaux sociaux sont négatifs pour certains jeunes, pour d'autres, c'est leur espace où ils vont pouvoir entrer en communication avec d'autres, parce que dans la vraie vie, ils n'y arrivent pas. Donc on va avoir à chaque fois le point positif et le point négatif, mais là, je pense que dans la période actuelle, la compréhension est beaucoup plus massive.
Merci. Alors Morgane, il y a le monsieur au prix de qui tu es, et après ce monsieur au coin.
Bonsoir. Moi, j'avais une question, c'était pour revenir sur ce que monsieur Blanchard a dit. Concernant la mission du défenseur des droits, vous avez la capacité de vérifier si les moyens de protection, entre guillemets, des victimes ont été mis en place. J'aimerais savoir si vous identifiez une récurrence sur les dysfonctionnements, parce que je suppose qu'il y en a. Certains sont peut-être volontaires, d'autres involontaires. Est-ce que vous pourriez nous éclairer dessus, s'il vous plaît?
Merci pour cette question. Alors effectivement, dans les dossiers qui nous sont soumis concernant des faits de harcèlement à l'école, il y a des phénomènes que l'on voit quasiment systématiquement dans nos dossiers. Alors, je précise quand même à titre liminaire qu'on ne voit que ce qui ne fonctionne pas. naturellement, les familles, les enfants ne nous saisissent pas quand leur situation elle est correctement prise en compte et prise en charge par notamment les services de l'éducation nationale. Donc, on a une vision qui n'est pas voilà à 360 degrés sur la façon dont elles sont prises en compte. Dans ce qui ne fonctionne pas, la première chose, c'est que on voit encore aujourd'hui une banalisation des faits qui sont rapportés par les enfants. On disait tout à l'heure, un peu plus tôt dans la table ronde, oui, les enfants n'osent pas trop parler. Il y a quand même des enfants qui osent en parler et qui ne sont pas suffisamment entendus par les adultes. Et ça, c'est quelque chose que disent aussi les enfants, le manque de prise en considération de leur parole. Et c'est aussi la raison pour laquelle ils n'osent plus, finalement, après s'exprimer. Donc, premier élément, vraiment, encore aujourd'hui, une banalisation des faits de harcèlement par des membres de la communauté éducative qui ont considéré que ça peut être des chamailleries entre élèves qui voilà vont se régler seuls. Le deuxième élément qui est assez intéressant, c'est, je vais dire un mot assez fort, la détresse des professionnels. Notamment ceux qui sont en première ligne, qui vont recueillir la parole de l'enfant. Beaucoup nous disent, lors des enquêtes que l'on peut faire, lorsqu'on les questionne, nous disent « mais moi, je sais pas quoi faire de cette parole. Moi, j'ai pas été formé. » Et il y a aussi une sorte de sentiment un peu d'illégitimité à recueillir une parole particulièrement grave dès lors que en fait ce sont des infractions pénalement répréhensibles. Et donc là, il y a aussi un travail intéressant d'accompagnement, de formation des professionnels, quels qu'ils soient, pour justement recueillir la parole des enfants et sur ces faits de harcèlement. Des constats, je pourrais en faire plein. Je vais en dresser un troisième et je m'arrêterai là. Ce qui ressort aussi beaucoup, c'est que les familles, assez naturellement, se tournent vers un dépôt de plainte face à une situation d'une telle gravité comme le harcèlement. Or, le dépôt de plainte, va parfois causer une inaction de la part de l'établissement scolaire. Et ça, dans beaucoup de dossiers, dès lors qu'il y a un dépôt de plainte, le chef d'établissement va nous dire « bah oui, mais moi, en fait, il y avait une plainte qui était en cours. Moi, je vais pas faire le travail à la place de la police ou de la gendarmerie. Donc, je vais attendre que les faits soient qualifiés pour moi faire quelque chose. » Et ça, c'est vraiment dramatique pour les enfants. Et donc, nous, on a de cesse de rappeler que c'est pas parce qu'il y a un dépôt de plainte et c'est même pas parce que la plainte a été classée sans suite que ça empêche les membres de la communauté éducative de prendre des mesures pour faire en sorte que le déjà pour s'assurer que les faits peuvent être qualifiés de harcèlement et pour faire en sorte que ces faits de harcèlement cessent le plus rapidement possible et qu'il y ait des accompagnements qui puissent être mis en place. Voilà pour trois constats, je pourrais en faire d'autres, mais vous avez déjà un petit aperçu de ce qui revient assez souvent dans nos dossiers.
Merci Romain. Question suivante. Hélène me signale qu'il y a une dame que je n'ai pas vue, c'est vous ? Alors, il y en a beaucoup, là.
Oui, je
peux y aller. Monsieur, d'abord, et après...
Il attendait, puis après, j'irai voir Malade.
Tout à fait.
Alors, bonjour, Didier Siliberti, je suis le principal du collège Jean Dieuzet à Pêche-Bonnieu. 823 élèves, CSP++++. Nous avons fait passer le test harcèlement. Deux cas sont ressortis, deux cas graves. Pourtant, nous sommes dans un milieu très favorisé. Mais je voudrais revenir sur un cas qui est très intéressant. Moi, je suis arrivé l'année dernière, il y a 4 ans, il y a un ancien élève qui est venu se pendre devant le collège sous les poteaux de rugby. C'est très intéressant puisqu'il ne s'est rien passé. Il n'y a eu aucun travail de fait. Alors je crois que monsieur l'a évoqué tout à l'heure, mais il faudrait aussi qu'on tire un peu les leçons du passé. Quand il y a un acte aussi grave, qu'on s'interroge. Pourquoi cet élève, pendant des années, a subi sans rien dire ? Et pourquoi, dans le collège, aucun travail n'a été fait ? Donc, je pense que c'est comme pour un accident de la route, vous savez. En Hollande, quand il y a un accident de la route, hein, on fait une enquête de suite pour savoir le contexte et comment ça s'est passé. En France, quand il y a un accident de la route, on dit « c'est pas grave, il y a un accident de la route ». Je crois que là, c'est très grave ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il y a des élèves qui souffrent. Moi, j'ai eu le cas cette année, par exemple, d'une élève qui nous a signifié. Je rappelle toujours que la première des violences, elle se fait dans la famille. Dans la famille. Pas dans les établissements scolaires. Hein. Dans la famille. Elle était violée par son demi-frère. Une professeure a réceptionné cette parole. Et je vais vous dire ce qu'elle a fait. Je l'ai rattrapée au portail, elle s'enfuyait. Elle ne voulait pas témoigner. Parce qu'elle n'était pas formée. Parce que l'éducation nationale, le problème que l'on a aujourd'hui, c'est que la plupart de nos collègues n'ont jamais été formés à ce type de révélation. C'est très brutal, c'est très dur. Et pour l'entendre, il faut être préparé. Merci.
Ce que l'un de vous vous répond, peut-être que sur la difficulté à s'exprimer, peut-être.
Alors, je vais dire tout et son contraire, mais je l'assume. Je vais dire que à la fois, il faut qu'on puisse être indulgent avec tous les parents qui n'ont pas vu, tous les professionnels qui ne sont pas intervenus, parce que effectivement, c'est un phénomène qui se passe en dehors du regard des adultes, souvent aussi, et aussi parce que jusqu'à maintenant, on n'était pas probablement suffisamment conscient, éveillé et outillé. Et donc, ça sert à rien de s'autoflageller, voilà. Et puis en plus, on sait expliquer, en fait, qu'on soit pas intervenu. Et puis après, je vais dire l'inverse. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est évidemment insupportable, extrêmement grave. Et il n'y a pas de mots pour le qualifier. Il y a à la limite que la justice qui pourrait intervenir pour pouvoir prendre la mesure des choses. Donc souvent, on parle beaucoup de harcèlement dans les médias quand il y a un drame. On sait que c'est aussi l'arbre qui cache la forêt de beaucoup de situations qui sont pas si graves que ça, qui vont pas mener au suicide, même à des tentatives de suicide, mais par contre qui sont évidemment la responsabilité aujourd'hui des adultes d'intervenir. Il y aura un avant et un après 2022-2023, en tout cas cette période de charnière, il faut se le dire. Aujourd'hui, la façon dont les politiques publiques se saisissent de la situation, le fait que le président du conseil départemental ait organisé cette soirée, le fait qu'on ait des équipes du conseil départemental qui aient associé tous les partenaires avec l'éducation nationale et jeunesse et sport pour pouvoir travailler sur cette question-là fait qu'il y aura un avant et un après, on ne peut que l'espérer et on sait que ça prend du temps les changements.
Merci. Alors, le temps file très vite, donc une ou deux questions supplémentaires. Pour les questions qui n'ont pas pu être posées, on vous propose après de se retrouver de façon plus directe, moins formelle autour d'un verre. Donc une ou deux questions. Bon, Morgane négocie, trois.
Oui, bonsoir. Je voudrais poser une question quant aux plaintes qui sont déposées. Est-ce qu'elles sont regroupées? Est-ce qu'elles vous arrivent directement à l'équipe qui est organisée et qui est entraînée pour récupérer ce genre de plainte dans tout le département? Comment ça fonctionne?
Alors nous, on est un service, on ne prend pas de plainte en fait. On accompagne les victimes ensuite, mais les victimes vont dans les brigades de gendarmerie pour déposer plainte. Après, non, elles ne sont pas regroupées. Pour vous donner un exemple, s'il y a une situation de harcèlement dans un collège, par exemple, on va prendre un collège de Pêche-Beaunieu, par exemple, et qu'il y a plusieurs élèves victimes d'un harceleur, et qu'il y a une victime qui va aller porter plainte à la brigade de Castelginest, il y en a peut-être une autre qui va aller porter plainte à la brigade de Fronton. Au bout d'un moment, le procureur, peut-être, quand il aura connaissance de la situation, il va demander à regrouper les procédures. Parce qu'on fait en plus des messages d'information qui desservent les brigades du département. Donc oui, il peut y avoir un regroupement de procédures pour des faits d'un même auteur.
Je pose cette question parce que dans l'école primaire où ma fille allait l'année dernière, il y a eu un incident avec une pose de plainte qui a été faite par le parent d'une victime. Et on n'a vu aucun résultat. En fait, il n'y a pas eu d'enquête faite sur place. Et alors, on s'est retrouvé dans la situation où la directrice de l'établissement disait « Ah, ben, moi, j'attends que la procédure se fasse ». La police ne faisait rien de concret. Il n'y avait pas d'enquête sur place pour savoir combien des enfants étaient agresseurs, ce qui s'était vraiment passé. Donc, il y a eu énormément de conflits au sein même de l'équipe éducative. Chacun tirait un peu la couverture à soi. Et les enfants au milieu, ils savaient tout, mais ils comprenaient rien. Et les parents, encore moins. Mais nous, on a des opinions. Donc, je voulais savoir comment c'est géré au niveau pratique et comment ça aboutit, parce qu'au finish, ce qu'on a envie d'avoir, c'est des résultats, c'est-à-dire la victime vraiment reconnue comme victime et prise en charge, le harceleur vraiment reconnu comme, enfin le harceleur, l'autre partie vraiment prise en charge aussi, elle a besoin d'être encadrée.
Alors, il faudrait avoir vraiment tous les détails pour vous faire une réponse très très précise sur cette situation. Néanmoins, un policier ou un gendarme, nous sommes en fait qu'agent de constatation, on va constater la parole qui nous est apportée, et le seul maître des procédures mises en œuvre est le procureur de la République. Alors, je connais pas ce cas-là, mais il peut s'être produit que le policier ou le gendarme qui en a référé au parquet, le magistrat n'ait pas décidé de poursuivre au vu des éléments qu'il avait en sa possession. Ce qui, sur des cas harcèlement, est quand même très rare. Cependant, nous, par exemple, sur des situations qui ne regroupent pas tous les éléments constitutifs pour que la situation soit poursuivie, on a essayé de mettre en place des solutions palliatives. Nous, on fait ça alors à très petit niveau, hein, au niveau de la maison de protection des familles, au profit des collèges. Quand dans un collège, il y a une situation où il n'y a pas de procédure ou de dépôt de plainte des différentes parties, mais qu'il y a eu une sanction au niveau du collège, et que les instances du collège trouvent que ça n'a quand même pas assez marqué les esprits, on reçoit chez nous, à la maison de protection des familles, on reçoit l'élève en compagnie de ses parents, avec la validation de la victime, pour faire, on va dire, un cours particulier, on appelle ça des rappels à responsabilité du mineur, pour faire un cours particulier à l'auteur, pour réasseoir un peu ses devoirs en tant que citoyen, et espérer que ce cours particulier pourra porter ses fruits. Après, pour vous répondre vraiment sur la situation, il faudrait qu'on s'assoie autour d'une table et qu'on analyse vraiment les faits. Voyez.
Oui, l'orientation vers notre association sur nos rendez-vous d'information juridique, notamment pour les enfants qui sont mineurs et qui sont jeunes, hein, pour pouvoir expliquer une procédure, savoir qu'est-ce qui se passe quand il y a un dépôt de plainte, etc., et comment ça fonctionne, et de comprendre aussi le pourquoi de la plainte, etc. Enfin, vraiment, ça fait partie des orientations pertinentes vers nos services.
Même audio, une mémoire sonore.
Une dernière question avant de laisser Vincent Gibert nous faire le mot de la fin. Toutes les questions qui n'ont pas pu être posées, parce que vous êtes nombreux, pourront l'être tout à l'heure pendant il y a un petit pot où on peut rester un moment. Et c'est bien aussi, c'est l'idée de pouvoir échanger ensemble. Je voulais aussi, parce que je vais oublier de le faire si je ne le fais pas, si vous me permettez, madame, quelques instants. Tout à l'heure, à la fin de la table ronde, Bérangère évoquait certains sites et ressources, etc. Donc vous signalez quand même le site du conseil départemental de Haute-Garonne, haute-garonne.fr, où il y a une page complète sur la question du harcèlement, avec effectivement tous les éléments qui ont conduit à la rédaction et publication de ce guide, et également avec beaucoup d'éléments pratiques, de liens avec des adresses, des numéros d'appel, etc. Voilà, donc pour approfondir un peu sur le sujet. Et il y a d'ailleurs une rubrique pour aller plus loin à l'intérieur du site, enfin je ne sais plus si c'est plus loin pour approfondir, mais en tout cas, voilà, vous allez trouver beaucoup d'éléments. Donc voilà, merci de votre patience, c'était juste parce que je trouve important de le repréciser, j'avais peur de l'oublier. À vous.
Oui, merci pour m'accorder ce petit temps de parole. Je ne vais pas être très longue, mais ceux qui me connaissent savent de quoi je vais parler. Moi, ce n'est pas une question que j'ai envie de poser, c'est plus d'apporter une information et de préciser qu'il existe quand même un volet complémentaire à tous ces dispositifs qui sont en place et qui agissent conformément. Mais à mon sens, il manque quand même un volet complémentaire qui est celui qui vise directement la victime et la manière dont on va l'outiller et le soutenir en lui donnant les compétences pour riposter et résister aux attaques de ces harceleurs. Voilà. Donc ça s'appelle le modèle de Palo Alto. C'est une un modèle de thérapie brève, voilà, que j'ai dispensé d'ailleurs sur une première formation au niveau du catalogue SDSF début octobre, qui a beaucoup plu aux participants. Et je voudrais juste préciser qu'il existe un livre qui a été écrit par Sandra Baudin, qui est une ex-CPE de l'Éducation nationale et qui a pratiqué de nombreuses années dans ses établissements ce modèle thérapeutique qui a aidé à outiller les enfants victimes de harcèlement. Voilà, parce que on parle beaucoup du harcèlement, mais on parle pas beaucoup de la manière dont eux peuvent aussi s'emparer de leurs problèmes et pouvoir y réagir. Voilà, et regagner en estime d'eux-mêmes également.
Merci Nathalie. Alors c'est vrai que il existe plein de méthodes qu'on n'a pas eu le temps de présenter évidemment. Je vais faire le lien avec la question d'avant aussi, c'est-à-dire que là on met l'accent sur qu'est-ce qui est traité dans les établissements scolaires. D'abord parce qu'il y a cette convention qui est pleine de promesses, mais aussi parce que on est quand même sur des situations entre enfants en milieu scolaire et que bien sûr il existe des méthodes qui peuvent être dans l'écosystème des intervenants autour qui peuvent être particulièrement importantes, que ce soit pour les auteurs et pour les victimes. Mais c'est vrai que n'oublions pas que c'est quand même à l'Éducation nationale, dans les établissements scolaires, en priorité, de pouvoir développer des approches et que les dépôts de plaintes, c'est souvent très insatisfaisant et que si on sort des établissements scolaires, bien sûr, on a accès à d'autres choses.
Et du coup, je serais ravie d'en parler avec Émilie Combat par rapport à vos services civiques.
Les services civiques, oui, qui ont été présentés. Oui. En fait, il y a Alexandra, qui est justement une intervenante de lutte contre le harcèlement scolaire en milieu scolaire pour...
Bonsoir. Non, je voulais juste intervenir avec mon collègue pour aussi... je ne sais pas s'il y a des collègues personnels de l'Éducation nationale ce soir, des profs, des collègues enseignants... voilà, moi je suis enseignante cette année, je suis conseillère pédagogique à l'inspection de Blagnac et ex-directrice d'école. Et c'était juste pour rassurer aussi, donc monsieur, après votre témoignage, il y a aussi des personnels dans l'Éducation nationale qui sont là pour former les équipes. C'est notre rôle, c'est le rôle de certains directeurs, des inspecteurs aussi de l'Éducation nationale, de mes collègues conseillères, de mon collègue juste à côté dans le second degré, et on forme à une nouvelle méthode, la méthode de préoccupation partagée qui est l'un des piliers du dispositif phare. Mais en tout cas, voilà, vous l'avez vu avec le nouveau ministre aussi, les choses changent, et je pense aussi qu'il faut rassurer les personnes qui sont là ce soir, parce que on est tous et toutes en train d'être formés. Et on œuvre tous avec les moyens comme on peut au phénomène de harcèlement dans le milieu scolaire. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose.
Non, t'as tout dit, c'est parfait.
Voilà. Merci, c'était juste pour une information, pour cette info.
Mais c'est important de soutenir l'espoir d'un changement de pratique, de formation et d'intervention. Je voudrais compléter sur le manque de formation qui est effectivement un serpent de mer dans le milieu de l'Éducation nationale. Aujourd'hui, il y a des sites internet qui sont extrêmement complets sur les ressources et on peut se dire aussi que les professionnels de l'Éducation nationale sont des professionnels de l'éducation et de l'apprentissage et que l'auto-formation est une alternative très satisfaisante en attendant d'avoir d'autres temps de formation plus formelle et que voilà, nous on est là aussi pour faire le relais de toutes ces ressources qui existent à disposition des professionnels de l'Éducation nationale, mais de tous les professionnels et de tous les parents qui ont envie de s'intéresser à ces questions-là.
La dernière question.
Ouais, je l'ai eue. Alors, bon, plusieurs choses dans ce que je voulais dire. La première chose, c'est que mon fils en cinquième, il y a 7-8 ans, a été harcelé, mais par une prof. Il a raté 3 mois de collège avec des problèmes de santé. On a fait beaucoup d'examens médicaux jusqu'à ce qu'un jour, ils nous disent qu'en fait, c'était sa prof. Voilà. Donc, c'est pas que entre élèves. Bon, voilà. Ça, c'est résolu. Mais en tout cas, voilà. Il a raté 3 mois de collège. Et nous, on s'est posé beaucoup de questions, évidemment. Et ça a coûté cher à la Sécu. L'autre chose, c'est que l'unicité, les services civiques, tout ça, c'est super. Moi, j'ai bossé avec des associations, on a des services civiques, mais c'est pas des emplois pérennes, c'est pas des gens qui sont formés, c'est pas des gens qui vont rester. Est-ce que il y aurait pas par hasard besoin d'embaucher du monde sur les collèges où il y a 2 surveillants dans les cours pour surveiller 500 ou 600 élèves? Est-ce que quand mon fils, justement, a été victime, là, on a tenté de rencontrer la psychologue scolaire Alors oui, on a eu un rendez-vous, oui. Parce qu'elle était là le premier jeudi de chaque mois. Donc on a eu un rendez-vous à un moment donné, entre deux rendez-vous. Il y a 1600 gamins dans le collège. Elle est là une journée par mois. Comment ils font les enfants pour aller s'exprimer, pour aller parler à quelqu'un? Donc peut-être que si on commençait par mettre du personnel, déjà, des emplois pérennes, rajouter des enseignants, avoir moins d'élèves en classe, on aurait peut-être moins de harcèlement.
Oui.
Monsieur le Président.
Merci. Bon, moi je ne peux pas répondre pour l'éducation nationale. Je vais me répéter, moi je ne peux pas répondre pour l'éducation nationale. Soyons très clairs. Et je ne m'aventurerai pas sur ce terrain-là. Parce que les jugements de valeur, vous avez qu'à me suivre sur les réseaux sociaux, vous verrez, j'en ai des griefs à faire. Mais dans ce que nous avons voulu porter depuis maintenant mon élection il y a 10 mois, c'est justement de s'emparer avec nos propres outils de cette question-là. Parce qu'effectivement, elle déborde les murs de l'école. Nous, on est compétents en matière de collège. On est censé les construire, mettre des agents pour les entretenir, donner les clés aux principaux et ne plus jamais y mettre les pieds. C'est ça ce que demande l'éducation nationale. Bon, ici, on a un peu bousculé les codes depuis quelques années. On va plus loin, beaucoup plus loin. Et pour la première fois, et c'est pour ça que je l'ai salué cette démarche, y compris de l'éducation nationale de ce département, parce que c'est comme ça que ça marche, on est allé plus loin qu'une collectivité avec un tissu, un réseau associatif, disent « on rentre pour s'occuper de la vie scolaire », oui, c'est une révolution dans le monde de l'éducation nationale. Je le dis sous d'autres formes de ce que je l'ai prononcé dans le discours. Ce que je peux dire, par contre, c'est que les professionnels que l'on met à disposition, en fait, pour lutter contre ce fléau, avec le centre de ressources qu'est la MDA, avec tous les professionnels qui travaillent dedans, 22, où on peut prendre un rendez-vous, on peut y aller sans avoir pris un rendez-vous. C'est très important. Il y a de l'accueil inconditionnel et il y a des plages d'accueil sur rendez-vous. Mais il y a aussi des plages d'accueil sans rendez-vous. Tous les noms qui sont identifiés dans le guide qui va être présenté après par Vincent, mon vice-président. Ce sont des agents formés, inscrits dans la durée, ce sont des fonctionnaires territoriaux, certaines des fonctionnaires d'État, ceux qui relèvent de la partie santé CHU, qui travaillent au sein de la MDA, sont des professionnels inscrits dans le temps, formés à ces questions, et ils ne font que cela, s'occuper des adolescents tout le long de leur mission. Ils n'ont pas d'autre mission, ils ne sont pas pris par ailleurs. C'est leur job de faire ça. Pour la première fois, on rentre un peu plus à l'intérieur des établissements, en disant « nous, nous sommes à disposition, en fait, pour vous amener d'autres adultes, d'autres réseaux, être la ressource. Voilà. » Et je crois que c'est aussi ça qu'il faut faire. Quant aux actions portées par Unicité, ce sont justement des jeunes qui ont été formés spécifiquement à cette question, qui sont sous forme, j'ose le mot, un peu de brigade, pour intervenir dans des situations de collège de manière pour apaiser des climats, mais ce n'est pas eux qui vont régler les problèmes de harcèlement. Ils sont là pour mener des opérations et des actions collectives de prévention. Ils sont là pour mener des actions collectives d'apaisement de climat, parce qu'il y a des collèges où il y a des omertas, où il doit y avoir des climats systémiques, s'il y a des problèmes qui reviennent de manière récurrente. Donc là, il faut mettre d'autres adultes, effectivement, faire notre part, et je le dis, nous, on va l'assumer, parce que après on a quand même tout le volet protection de l'enfance, hein, lorsqu'il y a effectivement des violences un autre niveau, hein, et où là, c'est plus la question familiale, intrafamiliale, parentale qui est en question, où là, c'est la protection de l'enfance qui prend le relais, et là, c'est tout un tas d'autres professionnels qui viennent en plus, mais... Je le dis, ne gadgetisons pas ce que nous sommes en train de mettre en œuvre en Haute-Garonne, parce que c'est beaucoup plus puissant en termes de réponse pour changer les choses sur la durée. Ça va demander de la constance, de l'engagement, du suivi, des points comme ça, en fait, réguliers avec les professionnels. Moi, je dis toujours, depuis 10 mois maintenant, on a beaucoup cette forme-là, d'abord, de forum, où on annonce, on concrétise des plans d'action dans le détail concret. Et au fond, après, il faut que ça bascule dans des temps réguliers annuels de travail, d'échange, où c'est qu'on en est, comment ça fonctionne, est-ce qu'on s'est emparé des outils, est-ce qu'on a fait baisser ce fléau qu'est le harcèlement. Moi, je crois que c'est difficile parce que c'est un temps où combien on est d'adultes à se dire, mais à recroiser d'autres adultes ou avoir été amis et dire, mais qu'est-ce que tu étais con ou qu'est-ce que j'ai été con quand on était jeune. Oui, c'est un temps où on se forme, où, vous l'avez dit, avec certains mots, c'est pas si évident de caractériser l'acte, la cruauté. C'est pas si évident de le percevoir à cet âge-là. C'est pas vrai d'avoir la prise de conscience. Enfin, pour lire aussi quelques livres, on voit bien que c'est difficile de caractériser. Et donc, je le dis, nous, on va avoir un engagement constant parce que ça fait partie de ce que j'estime être nos missions. Alors, on n'était pas censé rentrer dans les établissements, mais là, maintenant, on y est. Avant qu'on nous déloge, je pense qu'il peut y avoir des changements de ministère qui disent « vous plus jamais, on peut rompre des trucs ». Mais quand je vois la persistance qu'on a eue maintenant depuis 7 ans sur le programme Mixité sociale, en ayant eu 4 changements de DAZEN, 4 changements de recteur qui, à chaque fois à leur arrivée, voulaient remettre en cause, et on a réussi par la constance, par les moyens que l'on met, en fait. C'est pas compliqué, vous avez raison de dire qu'il faut des moyens. Mais nous, on met des moyens, c'est pas qu'une campagne de communication. Il y a des professionnels derrière, il y a des gens. Une fois que les relations entre les principaux, entre les relations entre les professeurs, les CPE et nos propres équipes s'installent, c'est plus un ministre, une circulaire ou quelqu'un qui débarque, qui défait cela. C'est pas possible. Voilà. Quand l'usage, hein, je le vois aussi sur le parcours laïque et citoyen, il n'y a pas un conseil d'administration maintenant où les profs, tout ça, parlent de PLC. Nous, on dit, vous parlez du parcours laïque et citoyen. Ah oui, c'est ça, le PLC. Quand l'éducation nationale commence à parler en acronyme, je me dis, c'est bon, c'est indélogeable. Il faudrait y trouver d'ailleurs un acronyme à tout ce dispositif. Ça sera vite indélogeable. Nous, on ne veut pas, parce que ça a de la chair et du corps. Voilà. Et peut-être qu'un jour, on ira plus loin dans un plan de lutte contre le harcèlement. Mais au fond, est-ce que ce n'est pas ce qu'on essaye de faire quand on met des plans de lutte contre les discriminations, contre les violences? On est aussi sur ça, finalement. Ça, c'est le démarrage de la haine de l'autre, hein, de la stigmatisation. Le harcèlement vers une fille, le harcèlement vers une couleur, le harcèlement vers une identité. C'est ça qui se passe. Bon, et c'est les formes de discrimination et de racisme que l'on trouve avec d'autres mots après. Ce n'est que le reflet, hein, de ce qui est l'amplification. Hein. Il n'y a qu'une reproduction de certains stéréotypes de parents aussi. Bref, je ne veux pas être plus long. Je ne sais pas si c'est conclusif. Mais c'est important de dire, parce que je ne veux pas qu'on laisse le sentiment. Et je ne veux pas répondre à la question de l'éducation nationale. Parce que peut-être qu'effectivement, ça aurait pu être à eux à mettre des moyens. Bon, on avait des pions avant, hein. Moi, gamin, je me souviens de mon collège, j'étais dans l'Ariège, on était 152, quand je me rappelle encore le prénom de pion, parce qu'on ne se souvenait que des prénoms, il y en avait des adultes, et pourtant, qu'est-ce qu'il y en avait aussi, des situations de harcèlement. Voilà, donc bon, je pense qu'il y a un temps de prise de conscience, il y aura un avant et un après 2022-2023. Je le crois et je l'espère, en tout cas. En tout cas, nous allons y travailler pour. Et les agents et le réseau associatif qui se mobilisent et le réseau institutionnel qui se mobilise autour de cette question dans ce département, mais j'espère qu'il va être constant dans le temps, quels que soient les gens qui viendront un jour diriger ici. Voilà, c'est aussi ça qu'il faut.
Merci, Monsieur le Président. Je vais demander à Vincent Gibert, vice-président du Conseil départemental, délégué chargé de l'éducation, de la citoyenneté et des valeurs de la République, de nous rejoindre. Le temps qu'il arrive, un mot pour vous signaler d'une part que cette soirée était enregistrée et va faire l'objet d'un podcast sur le site de nos partenaires de Memaudio, memaudio.fr. Voilà, et que l'on remercie d'être avec nous. Il vous y retrouvez très régulièrement. régulièrement, soirées, conférences, débats, etc., du conseil départemental. Et vous vous installez là, c'est parfait. Vincent Gibert.
Bonsoir à toutes et tous. Quelques mots pour conclure cette soirée au cours de laquelle les échanges furent riches et fructueux. Et quelques mots pour conclure cette soirée en vous annonçant une bonne nouvelle, c'est que nous allons pouvoir toutes et tous poursuivre ce dialogue autour d'un verre de l'amitié, et donc ce qui vous permettra de faire passer les nouveaux quelques mots que je vais vous donner et qui symbolisent donc le fait que c'est pas tout à fait fini, mais presque. Quelques mots pour vous remercier toutes et tous pour votre participation et votre implication dans cette soirée, et pour beaucoup et nombre d'entre vous dans le plan, la mise en œuvre du plan départemental de lutte contre le harcèlement scolaire, donc le PDLHS. Mais c'est trop compliqué, donc on n'en viendra jamais à l'acronyme, je vous le promets, parce que le président l'a dit, et vous l'aurez compris à travers ses mots, à travers son discours et les mots qu'il vient de nous transmettre. Notre volonté à agir contre ce fléau est grande, et nous le faisons, je dois le dire aussi, avec beaucoup d'humilité. Parce que nous l'avons vu ce soir, nous l'avons constaté de nouveau, les facteurs qui concourent à ce que se mette en place le harcèlement scolaire sont multiples, nombreux, et que nous avons le sentiment que, peut-être, nous avons passé beaucoup de temps à regarder ailleurs sur cette question. Et monsieur en disait quelques mots lorsqu'il faisait référence à son histoire personnelle. Pendant trop longtemps, on a considéré que la violence chez les jeunes était finalement une forme de rite de passage, de rite initiatique. Ce fut d'ailleurs le cas. Le premier changement sur cette vrai changement sur cette question-là, c'est lorsque est venu le débat autour des questions de bizutage. Pardonnez-moi pour je perdais mes mots, de bizutage. Et on a vu que tout à coup, il y a eu une prise de conscience sur le fait que finalement, c'était des pratiques qui étaient inacceptables. Et les choses ont changé, et les choses ont changé très rapidement, parce qu'il y a eu une prise de conscience, mais parce qu'il y a eu un engagement de moyens. Et ce fléau du harcèlement, il met en danger la société vers laquelle on voudrait aller, celle que l'on veut construire, la société dans laquelle les individus sont libres parce qu'ils sont émancipés, libres parce qu'ils peuvent réussir, et libres parce qu'ils sont heureux. Et quelques-unes des interventions l'ont démontré, le harcèlement scolaire, il a un impact majeur sur la question de la santé mentale des jeunes. Et lorsqu'on touche à la santé mentale des jeunes, on touche parfois jusqu'à leur vie, mais pour beaucoup aussi, malheureusement, à leur capacité à apprendre, à bien grandir et à bien réussir. La lutte contre ce phénomène, ce fléau, il s'est quelque peu banalisé. Et je pense qu'il s'est banalisé parce que pendant trop longtemps, et ça a été dit également, des jeunes se sont livrés sans que leurs paroles n'amènent un changement dans leur quotidien. Pendant trop longtemps, les jeunes se sont dit « mes parents ne vont pas comprendre ». Pendant trop longtemps, des jeunes se sont dit « personne ne peut agir parce que finalement, personne n'a d'autorité dans cet espace dans lequel je vis et dans lequel on m'enferme ». Eh bien, l'objectif avec un plan départemental de lutte contre le harcèlement, c'est d'abord de sensibiliser les jeunes à cette question. C'est une question qui peut paraître un enjeu, qui peut paraître peut-être anecdotique, mais communiquer autour de cette thématique-là, ça participe à briser le silence. Aujourd'hui, c'est entre 2 et 4 ans, en moyenne, que mettent les jeunes avant de livrer une situation auprès d'un proche, auprès d'un enseignant. Ce tabou-là, ce silence-là, il faut le briser, et nous pensons que lorsqu'il y a un engagement d'une autorité publique comme la nôtre, eh bien, ça contribue à ce que les gens se disent « oui, il faut que je me livre ». Dans les 3 axes du plan qu'a présenté le président, il y a cet enjeu de la sensibilisation, l'enjeu de la prévention, agir en prévention, ça vous l'aurez compris, je ne reviens pas dessus, ce sont les services civiques dans les établissements, c'est la formation pour les personnels territoriaux, formation pour toutes celles et ceux qui finalement participent et forment la communauté éducative et que nous souhaitons amener dans une logique de co-veillance. Et puis un travail d'organisation d'espaces de dialogue, d'ateliers avec des élèves, et on a eu quelques-unes des associations et des fédérations d'éducation populaire qui nous accompagnent en complément de nos services dans les établissements. La dernière dynamique, c'est celle de l'accompagnement, et c'est celle avec laquelle a conclu le président, donc je ne reviendrai pas sur ces mots, il l'a dit de façon excellente, et en vous transmettant toute la volonté qui était la nôtre, à travers notamment cette évolution de la MDA pour pouvoir accueillir toutes celles et ceux qui en ont besoin, que ce soit les élèves harcelés, les élèves harceleurs et leurs familles. Et dans cette thématique de sensibilisation, de prévention, on a fait un choix qui a été d'éditer un guide. Parce qu'on le voit bien, finalement, les niveaux de violence, ils sont très divers. Les acteurs qui peuvent répondre aux problématiques en fonction du parcours de vie du jeune, ils sont multiples. Et donc, on a fait le choix d'éditer un guide. Ce guide, vous ne l'avez pas toutes et tous sur votre table, donc je vous invite à le prendre lorsque vous sortirez. On a fait le choix, à travers ce guide, de travailler avec l'ensemble des partenaires. C'est toujours cette idée de mettre en dynamique, d'amener chacun à assumer ses responsabilités, à assumer plus de responsabilités, plus d'engagement. Et nous avons fait le choix de parler d'abord et avant tout aux jeunes. Et donc, vous le verrez, dès la première page, on s'adresse aux jeunes. Avec une idée assez simple, leur permettre de comprendre le harcèlement scolaire pour mieux le connaître, leur parler de ce que devrait être leur vie, cette vie dans laquelle le respect est mutuel, les inviter à briser le silence en leur faisant savoir quelles sont celles et ceux auprès de qui ils peuvent s'adresser. Quelques conseils aussi pratiques pour les inviter à prendre soin d'eux, parce que il faut se rappeler que c'est d'abord de soi dont il est question, de sa santé, de son bonheur. Et à travers ce guide, nous avons fait le choix aussi de rassembler ces ressources pour pouvoir aiguiller, parce qu'on le sait, dans cette jungle de partenaires, il y a une nécessité de pouvoir orienter les élèves, mais aussi orienter les familles. Et on conclut le guide par cela, par les ressources à la disposition des parents qui, j'en suis convaincu, et je le sais déjà, j'en ai eu la preuve, qui, lorsque leur enfant rentrera à la maison, puisqu'il a été distribué à tous les collégiens, et que leur enfant leur présentera ce guide, auront déjà le début d'un dialogue. Et c'est là aussi un outil pour créer cette étincelle, parce que ce dialogue, il est nécessaire. Et donc, ce guide, on l'a édité à autant d'exemplaires qu'il y a d'élèves dans le département. Nous sommes déjà sollicités par des intercommunalités, des communes, des structures associatives, des parents qui veulent qu'on l'édite, qu'on le réédite, qu'on le fasse connaître. Et donc, on va l'éditer, le rééditer. Mais surtout, et j'en conclue par là, surtout, ce guide, il est le symbole du travail partenarial qu'on a mené, d'une part, je l'ai dit, mais d'autre part, de notre volonté que ce dispositif, il vive et qu'il s'adapte. Parce que l'idée, c'est que ce guide, il a cette forme cette année, il a ce contenu cette année, mais l'année prochaine, tout comme le plan départemental de lutte contre le harcèlement, il sera amené à vivre. Et c'est le rôle de soirée comme ce soir, de vous écouter, de vous entendre, de nous nourrir de vos opinions, de vos avis, de vos savoirs et de vos retours. Et pour cela, vous pouvez compter sur nous, les portes du service de l'éducation, de toutes celles et ceux qui, au conseil départemental, ont travaillé sur le sujet, sont ouvertes. Ma porte est ouverte et nous essaierons, tout au long de l'année, de pouvoir travailler pour l'adapter et que ce plan soit toujours le mieux adapté possible pour répondre aux situations. Donc je vous remercie sincèrement, au nom du président et de notre institution, pour votre présence, votre participation, et je vous dis à minima à l'année prochaine.
Voilà, nous invitons à échanger autour d'un verre. Quelques mots juste pour remercier l'équipe technique qui était là-haut. Merci Anthony. Et puis surtout, Émilie Combat, Florence Fondrieste, Hélène, Rico, Didier, Adeline, Romain et Bérangère de leur participation et d'avoir enrichi cette soirée de leurs apports. Merci.